À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent. Bonsoir nos invités qui se présenteront tout à l'heure.
Bonsoir.
Bonsoir.
De voix féminine, hein, comme vous avez remarqué. On peut révéler les noms, Chantal et Daniel. Alors Dominique, quoi de neuf ?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Bon, on va commencer par une petite actualité politique en Italie, comme d'habitude. Bon, on y voit un tout petit peu plus clair pour les élections qui vont se dérouler en février 2013, bien sûr. Et donc le 24 et le 25 février, suite à la dissolution du Parlement qui était au mois de décembre, le 22 décembre, puisque le Parlement était dissous parce que M. Mario Monti, qui est président du Conseil, qui était président du Conseil en titre à ce moment-là, avait dit qu'après le vote du budget, il présenterait sa démission. Il a tenu parole, il a présenté sa démission. Et le Parlement a donc été dissous et des élections qui devaient se dérouler fin mars, début avril ont été anticipées suite à la décision de M. Napolitano. Et ces élections auront donc lieu le 24 et 25 février. Les Italiens donc iront aux urnes pour les élections générales qui se dérouleront pour deux chambres. Pour la Chambre des députés, ils devront élire 630 députés. Et pour les Sénats, ils devront élire 315 sénateurs. Voilà. Alors, on avait quelques interrogations la dernière fois sur les différentes alliances et les différents candidats étaient à peu près connus, mais les différentes alliances. Cette fois, on y voit quand même beaucoup plus clair, comme je le disais. On aura donc, pour la centre-gauche, le leader sera Pierluigi Bersani, qui est sorti des urnes des primaires, puisque des primaires à gauche ont été organisées. Il est sorti en tête de ces primaires, et ce sera donc le candidat désigné si le Parti démocrate est élu en majorité. Ce sera probablement lui qui serait président du Conseil dans ce cas-là. Il est sorti des primaires devant Matteo Renzi, Niki Vendola et d'autres candidats qui représentaient différents courants de la gauche, du centre-gauche italien. Alors, ce n'est pas un inconnu, il est inconnu pour la France, mais ce n'est pas un inconnu en Italie, puisqu'il a été ministre. Il a été ministre sous le gouvernement Prodi, il a été aussi il a fait partie d'un gouvernement Amato, il a été président de région, il est originaire d'Émilie-Romagne, dont beaucoup d'hommes politiques sortent d'ailleurs. Ensuite, la deuxième alliance connue, c'est alors à l'intérieur de cette coalition, hormis le parti de Bersani, qui est un parti le plus important, il y a aussi le SEL, qui est la gauche écologique et liberté. Il y a l'Alliance pour l'Italie, l'API, donc respectivement de Niki Vendola et de Bruno Tabacci. Et l'alliance La Pila, qui est une émanation de la Margherita, qui était un parti dirigé par Franco Rutelli, qui avait été maire de Rome à une époque. Ensuite, il y a un regroupement au centre, enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle, et ce regroupement est autour de Mario Monti, le président du Conseil démissionnaire, qui au départ hésitait Alors lui, il ne peut pas se représenter parce qu'il est sénateur à vie, donc il a fait des listes autour de son nom, on va dire. Et il aura comme allié... Alors la liste va s'appeler Scelta Civica con Monti per l'Italia, c'est-à-dire le choix civique, enfin une liste citoyenne, disons, avec Monti pour l'Italie. Il va avoir avec lui l'Union du Centre, qui est le centre depuis longtemps en Italie, l'UDC, qui est un peu le Bayrou français, on va dire, avec Pierre Ferdinando Casini, Et un autre petit parti qui s'appelle le FLI, le Futur et la Liberté pour l'Italie, qui est, dont le leader là est archi connu, puisque c'est Gianfranco Fini qui a été président de l'Assemblée en Italie. Voilà, alors ce parti du centre sera regroupé autour d'une, de différents points qui ont été instaurés, enfin la ligne directrice a été donnée par Mario Monti. Ensuite, il y a le regroupement de droite centre-droit, comme il s'appelle, autour d'un certain SB, Silvio Berlusconi, si je me souviens bien, et qui revient en ayant dit de toute façon qu'il ne serait pas président du Conseil. Il ne voudra pas être président du Conseil. Et il s'allie, bah, comme d'habitude, à la Ligue du Nord. Alors c'est des amours qui partent, qui reviennent, qui redescendent, qui remontent. Et ils leur auront avec eux le mouvement pour les autonomies, le MPA. Et puis des petits groupes, Fratelli d'Italia, qui est le nom aussi de l'hymne italien.
Ah,
c'est
oui.
Sans doute pas un hasard s'ils ont choisi ce nom. Il y a le PID, enfin peu importe, il y a le Grande Sud, qui est une sorte de fédération de petits partis du Sud qui ressemble à la Lega Nord pour le Nord. L'Action populaire de Silvano Moffa, et puis d'un autre petit mouvement qui s'appelle le MRN. Voilà pour le groupe de M. Silvio Berlusconi. Et puis pour la gauche, il y aurait, jusqu'aux dernières nouvelles, mais c'est probablement ça, autour de Antonio Ingroia, qui était un avocat, si je ne me trompe pas, ou un juge, enfin qui était dans le judiciaire, et qui aura avec lui, donc c'est Révolution civile, avec autour de lui la Fédération des écologistes des Verts de Grazia Francescato et Rifondazione Comunisti, et probablement l'Italie des valeurs du juge Di Pietro. Et puis, il y en a pas mal hein, de listes. Mais de l'autre mouvement dont on parle beaucoup, c'est le mouvement de Beppe Grillo, les 5 stelle, les 5 étoiles. C'est ce fameux comique qu'on comparait à Coluche, peut-être au niveau de ce qu'il faisait, et puis parce qu'il s'est présenté en politique. Mmh. Et, au début, il y avait des tas de réunions dans toutes les places italiennes. Et puis petit à petit, ce mouvement a pris énormément d'importance. Et je pense qu'il s'est un peu fait dépasser par le mouvement qu'il a créé. C'est-à-dire, maintenant, il est parti dans des théories quasi populistes. Son dernier projet, c'est d'éliminer les syndicats, il ne savait rien. Enfin, il a plein de choses comme ça. Et puis, en fait, c'est le grand thème de tous pourris, quoi. Alors, ça, c'est souvent porteur dans des élections pendant des périodes difficiles. Ça mène sans doute pas à grand-chose, mais voilà. Alors, quels sont les favoris ? Les favoris, pour le moment, c'est la liste de Bersani qui est au niveau des sondages. Mais alors, qu'est-ce que valent les sondages et quand est-ce que... Le sondage aujourd'hui et dans une semaine, ça ne sont sans doute pas les mêmes. Pour le moment, c'est Bersani qui a 38% des voix, sa liste. Ensuite, la liste de M. Silvio, elle a 22, alors certains disent 25, d'autres 28. Celle de Mario Monti aurait entre 12 et 15%. Celle de Beppe Grillo, un petit peu pareil. Donc, a priori, les élections, au moins pour l'Assemblée des députés, devraient être gagnées de vrai. Hein, tout ça est conditionnel par Bersani, parce que peu imaginent une alliance entre Mario Monti et Berlusconi, parce qu'ils se haïssent par médias interposés.
Il devient quoi, Berlusconi ?
Alors Berlusconi, en fait, sa seule ambition, alors là, il est sur toutes les télés, sur toutes les radios, de partout, comme il sait très bien faire, hein, c'est-à-dire avoir tous les médias, aller toutes les émissions, même celles qui lui sont contraires. Bien sûr, dans les télés qu'il a lui-même, elles ne lui sont pas contraires, mais même dans celles... Il a même été invité par une des personnes qu'il avait fait virer de la télé à une époque, mais bon, il va sur toutes les émissions pour faire parler de lui, évidemment. Et puis comment, en ce moment, la parité n'a pas été encore mise en place au niveau du passage dans les télévisions. Dès qu'elle sera complètement mise en place, il aura sans doute plus de mal à prendre autant de fois la parole. Lui, sa seule ambition, c'est d'être député, au minimum, pour avoir l'immunité parlementaire. Quoi. C'est tout oui. simplement ça. Mmh. Et il a dit que s'il était élu, il serait ministre de l'économie, de toute façon. Il a déjà choisi son... Bon, c'est sans doute un vœu pieux, mais je serais assez surpris quand même qu'il soit élu. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Voilà, on va écouter peut-être un peu de musique. Alors, pour faire honneur un petit peu à nos invités, même pour faire honneur carrément à nos invités, on va passer des morceaux aujourd'hui de groupes, de chœurs, de chorales.
Mais oui, parce qu'on pourrait peut-être préciser que nous sommes là oui. pour parler... d'Ephiméra.
Oui, oui, mais nous vous donnerons la parole après. Vous n'allez pas jouer les Berlusconi. Hein. Vous aurez la parole quand on vous la donnera.
Si, le seul chose, c'est que ce ne sont pas des chœurs, ce sont des chansons qui sont chantées par des chanteurs ou une chanteuse, mais dont nous avons repris le thème musical.
Ça, c'est pour tout à l'heure. C'est parce que je voulais vous faire entendre.
Ah, d'accord.
Je parlais d'un autre choix.
Excuse-moi. Nous n'avions pas compris ni l'une ni l'autre.
Non, mais c'est pas grave. Donc, le premier groupe que je voulais vous faire entendre avec Dominique, c'était, vous le connaissez, c'est un groupe de Gênes, La Squadra, qui chante un genre musical qui s'appelle le tralalero. Alors pourquoi tralalero ? C'est suite à l'onomatopée tralala, en fait. Mm-hmm. Alors, en fait, quand Gênes, qui est une grosse région industrielle de par le port, quand elle s'est industrialisée, la ville, en fait, ils avaient besoin de main-d'œuvre et beaucoup de paysans sont descendus de la montagne ou des campagnes environnantes où la chanson traditionnelle était très implantée et ils ont amené dans la ville ces chansons qu'ils chantaient dans leur campagne, chansons rurales ou montagnardes, on va dire. Et petit à petit, ces chansons ont été adaptées au port. Et il y a eu, tout à fait au début de l'industrialisation, des groupes de tralalero qui se sont formés. Il y en avait plus d'une centaine à Gênes. Et chaque quartier était en compétition avec un autre quartier. Et qui chantait dans ces groupes, c'était des groupes d'hommes qui chantaient après leur travail et qui se réunissaient tous les soirs pour chanter. Et souvent, c'était des dockers, en fait. Et s'ils n'étaient pas dockers, ils étaient tous grands baraqués, parce que pour être sur le port et travailler sur le port, il fallait être assez costaud. Et ils ont donc fondé ces groupes de tralalero avec des Génois, mais avec aussi des gens venus d'autres régions, et notamment les régions les plus proches étaient la Lombardie et le Piémont, Lombardie et la Sardaigne, parce qu'elle était en face au niveau de la mer.
Ils se servaient souvent de la même mélodie, mais ils improvisaient dessus.
Absolument. Et c'était,
L'ancêtre du slam. Hein.
C'est tout à fait. Et c'était. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui
qui répondent.
Et ce sont toujours des chansons très courtes, en général, 2-3 minutes, 1 minute 50, etc. Et quand je disais qu'il y en avait une centaine, c'était dans les années 20, au début du siècle. Maintenant, il y en a beaucoup moins, malheureusement. Mmh. Et ils essayent de maintenir la tradition. Espérons qu'ils y arrivent. Alors, la composition de ces groupes va de 5 personnes minimum, 5 hommes minimum à 18. Bon, ils disent que 18, c'est un peu trop. Mais la moyenne est autour, comme est la squadre, de 10, 12 chanteurs, avec un ténor qui en langue génoise s'appelle Uprimu, le falsetto Usecondo. Il y a une voix qui imite la guitare, avec une voix nasale et puis la main retournée contre les lèvres. Il y a le baryton qui s'appelle Contrabbasso, en génois toujours, et puis il y a le chef de chœur, on va dire comme ça, qui lance le chant. On va les écouter donc dans le tralalero, l'onomatopée tralalero. La 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 Voilà, alors ici, ils improvisaient un tralalaire uniquement par onomatopée.
Oui, en fait, il n'y a pas de parole, oui. C'est...
Mais pour ce morceau-là, oui, mais comme ça. Tu le disais tout à l'heure, ils improvisent aussi sur des thèmes.
Sur des thèmes.
Bon, ça peut être des phénomènes de société, sur des amours, sur des thèmes d'actualité, etc. Ouais. etc. Là, le chef de chœur est Francesco Tanda, qui est d'ailleurs d'origine sarde. Alors, on va passer la parole maintenant à un autre chef de chœur, Daniel.
Oui, merci.
Daniel et Chantal, qui vont se présenter et qui vont nous présenter surtout la chorale dont on parle de plus en plus en Nord-Isère et qui s'appelle Ephimera. Alors, Daniel.
Oui, Alain.
Dis-nous tout. Quand est-ce que c'est... Alors déjà, présente-toi, Daniel, parce que nous, on la connaît, mais on aimerait que les auditeurs la connaissent bien.
Daniel Cochard, qui a un passé, disons, de musique. J'ai dirigé d'autres chorales, mais diriger une chorale uniquement en italien, c'est vraiment un plaisir, un grand plaisir, parce que c'est une langue que j'adore. Ma mère était italienne. Dans la chorale Ephimera, il y a une dizaine de personnes qui sont soit italiens, soit qui ont des ascendants italiens. Donc, c'est très agréable. Et personnellement, j'ai plutôt... Moi, mon répertoire préféré, c'est la Renaissance.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Voilà, c'est la Renaissance, mais c'est sûr que... D'ailleurs, le chant qu'on vient d'entendre me font penser au Cri de Paris et ça se recoupe tout à fait. Là, je suis arrivée un petit peu par hasard en ayant, sur diverses réalités de la vie, je dirais, Bernard Legros, qui faisait partie du groupe, m'en avait parlé. Et puis, à un moment, il s'est trouvé que j'avais une disponibilité n'ayant plus de chorale. Et il m'a demandé de venir chanter. Il m'a dit, viens chanter avec nous. Donc, je suis venue. Puis, Colette Hénac, la chef de chœur, étant partie, on m'a demandé de prendre sa place, ce que j'ai fait volontiers, avec grand plaisir.
Voilà, alors avec Chantal, donc qui elle est depuis l'origine de la chorale, on peut le dire qu'il l'a créée.
Oui, enfin disons que
j'ai...
C'est l'étincelle.
Oui, c'est l'étincelle, oui, sur le...
Alors Chantal, vous connaissez tous sa voix, hein, puisque
sur le,
elle a
sur
participé
le,
à plusieurs émissions.
Sur le théâtre de Rovigo.
Voilà, alors tu peux réexpliquer brièvement.
Oui, 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 on avait fait un petit duo... avec le chant de Giuseppe De Mardi, Signore delle Cime, et on a pour tester l'acoustique
du théâtre.
Voilà, avec Evelyne Broche, qui était du voyage, parce que nous étions à Rovigo pour
le festival
de musique traditionnelle qui était consacré cette année-là à la musique arabo-andalouse.
Enfin, la musique méditerranée occidentale, il y avait les Sardes, la musique arabo-andalouse.
Voilà, c'est ça. Oui.
Et la visite du théâtre. En fait,
voilà,
le théâtre était fermé.
Alain avait obtenu la visite du théâtre.
Qui était fermé.
C'était super. C'était un beau théâtre à l'italienne.
Il nous avait permis de le visiter, mais visiter. C'est-à-dire même les loges et autres.
Oui.
Et donc, on avait eu le droit à un concert en duo.
On a voulu tester. On a chanté toutes les deux. Et puis, les autres se sont mis dans les loges. Et en effet, on n'avait pas besoin de chanter fort, c'était génial.
Ah oui, ça c'est
comme l'année d'après, il y avait l'anniversaire des 20 ans.
Il y a eu l'assemblée,
de l'association. Qui a été le lancement, on peut dire.
Et là, on a rechanté. Voilà. C'est peut-être toi, Alain, qui nous a donné l'idée de rechanter ce qu'on avait chanté sur la scène.
Oui,
c'est toi. Et donc, Jean Piccoli s'est joint à nous. On a chanté tous les trois. À l'Assemblée, et puis on s'est dit, dans le fond, pourquoi on ne créerait pas une petite chorale pour fêter les 20 ans d'Inis.
L'année d'après. Donc.
Voilà. Et puis, il y a plein de gens qui étaient partants, donc c'est parti comme ça. Et voilà, et aujourd'hui, nous sommes là avec Daniel, et nous sommes aujourd'hui 17.
Donc c'était en 2009.
18 avec moi.
C'était en 2009.
2009, l'officialisation.
Voilà,
Et vous l'aviez appelé, donc
Éphimère parce que on pensait que ce serait éphémère
que pour l'année de l'anniversaire.
Mais
voilà,
Mais le nom a changé.
Oui.
Et c'est Ephemera, l'instant magique en langue italienne.
Voilà, c'est la définition.
Le vrai nom de la chorale.
Plus long, bien sûr. Elle a pris de l'ampleur. Donc, le nom, exactement.
Et en même temps, ça donne un petit peu l'idée de ce que c'est.
Bien sûr.
Enfin, ça nous fait quand même quelque chose à assumer pour les concerts, l'instant magique.
Ils sont tous magiques. Alors. Alors, vous êtes combien maintenant dans cette chorale?
Nous sommes 17 choristes plus moi.
17 et 1, 18, voilà. Donc 18 membres.
Voilà, pour des raisons diverses, c'est dommage, cette année on a quelques personnes qui nous ont laissés et nous aurions besoin, alors je vais vite en profiter, nous aurions besoin d'une ou deux sopranes.
Voilà, alors vous, tout à l'heure on redonnera vos coordonnées et puis n'hésitez pas à les contacter. Alors la répartition entre hommes et femmes là, dans la chorale,
c'est à peu près équilibré.
Il y a quatre choristes dans le pupitre des sopranes. Il y a quatre choristes dans le pupitre des altos. 6.
Oui, avec Nadine, oui.
6 avec une ténoresse.
D'accord.
Dans le pupitre des ténors et 2 basses.
D'accord. Et vos lieux de répétition, alors c'est...
Toujours
c'est un local que la mairie a mis à notre disposition dans la maison des associations Camille Claudel. Et donc, c'est rue de la Libération.
75.
Au 75.
Voilà.
Et vous vous réunissez une fois par semaine?
Oui.
Ouais.
Tous les lundis après-midi de 14h à 16h.
Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais alors comment votre répertoire, il change d'année en année, tous les 2 ans, ou c'est pas aussi figé et vous évoluez au gré de vos...
Je dirais que ça dépend de la difficulté d'apprentissage du chant. Mmh. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, nous allons écouter la Povera Sicilia. Et l'harmonisateur qui nous a fait le travail a pas mal compliqué. Il est assez long à mettre en place.
D'accord.
Par contre, nous écouterons Siam et Ribelli de la Montagne. Et là, je lui ai demandé de simplifier un petit peu et de donner plus le caractère. C'est un chant de partisans,
oui.
De donner le caractère volontaire. Voilà.
Mmh.
Nous avons commencé par des chants d'émigration.
On continue.
Oui. Alors c'est vrai qu'on a maintenant un fond dans lequel nous tapons
vos classiques.
Voilà, et qui s'ajoute au nouveau répertoire. Il y a des chants que nous aimons beaucoup et que nous conservons. Et automatiquement, nous mettons Bella Ciao,
bien sûr.
Normal. Par contre, nous avons appris Il fallait tel, l'hymne italien, pour les 15 ans d'anniversaire de jumelage avec... C'est les 15 ans ou plus, je ne me rappelle plus. Avec l'Italie, avec Conte Alice. Donc,
d'accord.
Nous avons chanté à cette occasion et nous avons chanté la Marseillaise et le chant à 4 voix.
Donc, il y a aussi donc, des chants qui correspondent aux événements.
Voilà, tout à fait. Donc, selon, on apprend. Mais nous sommes en train un petit peu d'élargir, puisque nous avons mis la Montanara, qui est un chant des chœurs alpins.
Des Dolomites.
Des Dolomites. Mmh. Qu'est-ce qu'on a et puis, on a mis... Zassa Scoletti qu'il avait mis Jérusalem et qui est un chant religieux de Beppe Di Marzi et qui est très beau, très difficile à interpréter pour vraiment lui donner son caractère. C'est sur le Vendredi Saint, donc c'est pas facile. Et puis moi j'ai rajouté Bagnac à la Storia parce que vraiment
c'est un chant d'émigration.
C'est un petit chant d'émigration, ouais. Mais qui est superbe.
Et au niveau de la langue, tu disais...
On chante dans tous les dialectes.
Ça, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que j'allais vous demander, parce que dans le répertoire, il y a beaucoup dans ce que tu as cité de répertoires aussi traditionnels, on va dire, et donc qui ne sont pas obligatoirement en langue italienne classique. Et dans vos membres, il y a des gens d'origine sans doute, mais des différents. Mais qui eux-mêmes ne connaissaient peut-être aucun de ces dialectes.
Ce qui est amusant, c'est que ça crée presque plus de problèmes aux Italiennes.
C'est logique.
Qu'à nous, parce que
c'est logique.
Nous on se plie à ce qui est écrit.
Oui.
Mais là on est en train d'apprendre Quanno te facci, qui est vraiment un chant en dialecte, et c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place.
Suivant les régions d'origine, il y a des dialectes qui
sont très difficiles,
bien plus difficiles que d'autres.
Tout à fait.
Par rapport à la langue italienne, je dirais.
Tout à fait. Là, c'est...
Dominique, tu as une question?
Oui, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut savoir combien de chants nouveaux vous ajoutez à votre répertoire chaque année?
Ouh là là,
c'est difficile.
Vous le savez?
Non.
Non.
J'ai pas assez de recul là pour l'instant, parce que ça fait quand même que 2 ans, vraiment plein, où je m'occupe de la chorale. Là, en ce moment, nous sommes en train d'en mettre 3 nouveaux.
Ah oui.
Oui,
trois à la fois.
C'est important.
On transpire tous les lundis.
On en a mis 2 entre mai et juin l'année dernière.
Ah oui.
Donc, tu vois, ça... On travaille, hein. Oui. On travaille. Ouais.
Très bien, bon, on va se reposer un petit peu, justement. Alors, vous avez choisi un premier
je voudrais rajouter quand même qu'au niveau du répertoire, on est quand même orienté vers les chansons traditionnelles populaires, hein, qui parlent de l'histoire de... du peuple.
Oui, mais c'est bien de le repréciser. C'est
oui,
vrai,
oui, aussi.
Ça, c'est quelque chose. On ne veut pas tomber dans la variété, bébé.
Non, mais ça, on avait cru comprendre. Mais voilà. C'est bien de le repréciser. Parce que c'est vrai que nous, vous connaissons, et on sait ce que vous faites. Beaucoup commencent à le savoir, mais il faut le préciser.
C'est important.
Alors, vous avez amené un premier chant.
Oui.
I ribelli della montagna.
I ribelli della montagna.
Qui a un autre titre, d'ailleurs.
Ah bon?
Aussi, oui. Au début, il s'appelait Dalle belle città.
Oui, bah c'est les premières paroles.
Voilà.
Tout à fait.
Ah, okay.
Il est connu sous les 2 titres. Maintenant, oui, il est plus centré sous le premier que vous venez de donner.
Et souvent, d'ailleurs, il dit, dans ce qu'on voit sur Internet, par exemple, ils disent pas Siam Iribel, ils disent Iribel, tout simplement.
Oui, c'est ça, oui. Le titre, c'est Iribel.
Alors, dis-nous tout.
Donc, c'est une chanson écrite par des partisans en mars 1944, les partisans de la 3e brigade, qui intervenaient dans la province d'Alessandria, en lutte pour la libération de l'Italie. Mmh. Les paroles sont attribuées au commandant Emilio Casalini, appelé Cini.
Qui était le parolier, on va dire.
Oui, qui commandait cette brigade, et la musique est d'Angelo Rossi, qui était aussi un partisan, mais était un jeune partisan musicien ou enseignant.
Oui, on ne savait pas trop s'il était... Hein. Non, enfin, il était musicien,
Et tous deux ont composé cette chanson au cours d'une attaque. Ils ont pris des notes sur du papier d'emballage, et la brigade a été détruite par l'armée allemande le 6 avril 1944. Peu de temps avant ma naissance.
D'accord.
Il y a un lien, non? Il n'y a pas de, y a
non,
pas
mais
de,
j'ai noté
y a pas de lien.
Et le commandant Cini a été fusillé donc le 8 avril. Voilà. Et là,
en plus, c'est surtout leur jeunesse. Oui, ils étaient très jeunes, ils avaient 22 ans.
Oui.
Donc.
C'est une chanson qui honore ses vies.
Bien sûr.
Et donc, la chanson va être interprétée par un groupe qui s'appelle Modena City Ramblers.
Qui, comme leur nom l'indique, sont de Modena.
Voilà. Et qui, alors je peux rajouter qu'ils ont intégré, c'est précisé dans leur petit bouquin là, ils ont rajouté dans la chanson une mélodie inspirée de, je ne sais pas si c'est vrai, de Per i Morti di Reggio Emilia, de Fausto Amodei.
Fausto Amodei, oui.
Fausto Amodei.
Qui est un grand chanteur italien. Et Mélodie City Ramblers. Modena City Ramblers, c'est un très bon groupe.
Oui, oui. Ah, et ben, puis, ça fait partie. Donc, je peux même rajouter que ça fait partie d'un CD qui s'appelle Appunti Partigiani, qui a été fait en 2005.
On les écoute?
On les écoute.
Sono partigiano, perciò odio chi non partecca. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia, Athos.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
Io raccomando a voi che siete studenti, quando raggiungete un posto di responsabilità nella società, fate in modo di lavorare per la pace.
Voilà. Chantal et Daniel, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous, je crois avoir la réponse, mais vous collaborez, je crois, avec un groupe de musiciens.
Musicienne
en plus. Est-ce que oui. C'est souvent? Est-ce que c'est occasionnel?
Chaque fois que
c'est, c'est à votre demande? Comment ça se
voilà,
passe?
C'est chaque fois que nous avons des concerts où nous sommes uniquement invités, nous demandons à l'estudiantine à la Cigale de Vienne de faire la première partie, puisqu'elle joue de la mandoline et qu'elles sont vraiment dans la note italienne, même si elles font des choses américaines ou des morceaux tout à fait autres que la culture. Oui, bien sûr. Mais elles ont quelques morceaux napolitains. Elles ont. Mm-hmm. Alors, elles sont quatre femmes et c'est un quatuor de mandoline avec. Le premier violon, enfin la première mandoline, la deuxième, l'alto. Et,
qui sont donc de la région viennoise.
Qui
sont
qui a été créée en 1905.
Ah oui, d'accord.
Mais ils ont été jusqu'à 60.
Les mêmes, hein.
Jusqu'à 60.
D'accord.
Et maintenant, ils ne sont plus que 4.
Ouais. Il y avait un orchestre de mandoline dans l'Ain, je crois aussi, qui était important. D'accord.
Je crois qu'il y en a un vers Grenoble aussi.
Mais c'était, 1905 même... Peut-être pas si vieux, mais dans les années 20, je crois qu'il y avait pas mal d'orchestres.
C'était
de
la mode de la mandoline.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Ouais. C'était la mode.
D'accord. Mmh. Et autrement, avec, vous savez, s'il y a beaucoup de chorales du même type que vous dans le Nord Isère, sans doute pas. Si, peut-être en Nord Isère, non.
Je crois qu'il y en a une à Voiron.
À Voiron, donc on touche déjà à la région grenobloise. Ouais. À Grenoble, oui, à Grenoble, il y en a plusieurs. Mais en Nord-Isère, peut-être pas, non.
Pas entendu parler.
Non.
qui est une démarche originale, hein, c'est sûr. Et autrement, vous arrivez à être toujours au complet ou vous vous adaptez selon...
À quel moment? Pour les répétitions ou pour les concerts?
Non, pour les concerts.
Parce que c'est ça qui est difficile, justement, parce que nous sommes que 17, et donc dès qu'il manque deux personnes, c'est un
sûr
problème.
Que si les deux basses manquent,
oui,
c'est impossible.
Non,
donc,
on peut pas chanter,
à l'avance, nous demandons aux choristes de s'engager. Bon, c'est vrai qu'il peut arriver des problèmes.
Bah,
hein,
il peut y avoir des imprévus.
Ça, oui, c'est sûr. Mmh. Mais de façon à être sûr que les pupitres sont suffisamment soutenus. Mmh. Parce que si les deux piliers d'un pupitre ne sont pas là, ce n'est pas la peine.
Bien sûr. Donc, si vous voulez faire du recrutement, donc il faut vous s'adresser à vous de quelle manière?
Eh bien,
pour les auditeurs.
Sur le site d'Inis, il y a mon numéro de téléphone. Je peux le redonner?
Bien sûr.
C'est 04 74 90 25 71.
Donc Chantal Galéa.
Voilà, Chantal Galéa. Et puis, voilà, c'est le plus simple.
Bon, sinon, vous adressez...
Les gens peuvent venir directement
le lundi voilà.
75 cours de la Libération à Bourgoin pour nous voir,
lundi après-midi,
nous écouter, voir ce que l'on fait. Bien sûr, c'est préférable quand les gens ont une petite expérience de la chorale, parce que...
C'est vrai que quelques personnes sont venues et ont dit « moi, j'y arrive pas
». Oui.
Parce que chanter en chorale, c'est pas toujours facile.
Dans une grande...
Les gens qui ont l'habitude de chanter tout seul dans leur salle de bain, ils ont du mal
à
se plier.
Oui, il y a une discipline.
Il y a une discipline. Et puis, si vous êtes alto, vous ne chantez pas le chant.
Bien sûr.
Donc, il faut chanter autre chose. Et ça, il y en a qui n'y arrivent pas.
Bien.
Et puis, dans une petite chorale, on est moins noyé que dans une grande chorale. Donc, il faut vraiment assurer sa place.
Oui, tout à fait.
Dominique, tu es candidat, non?
Non, pas encore.
Pas encore.
Ah,
pas
mais il n'a pas dit non catégorique.
Non.
Bientôt.
Je retiens.
La personne qui emploie le mot « pas encore », en général, c'est que c'est
j'ai
proche.
J'ai noté.
S'il ne dit pas encore, c'est pas du tout.
C'est vrai que si on avait un base de plus, ce serait bien.
Ouais. Bien.
Le problème, c'est quand il y en a un qui manque pour un concert.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Parce qu'à eux deux, ils ont deux bonnes voix, ils sont sûrs.
Ils sont très
donc
bien.
C'est vrai que quand on chante en répétition, il n'y a pas de problème. Oui. Mais en concert, ça peut poser un problème.
Bien sûr. Vous nous proposez un deuxième titre?
On pourrait peut-être faire aussi la publicité de...
Ah oui,
justement, l'Estudiantina va donner, la Cigale, l'Orchestre de Mandoline, va donner son concert annuel. Le samedi 9 février à Vienne, à 20h30, au Théâtre municipal de Vienne.
D'accord. Et vous avez des concerts prévus, là, dans les...
Oui, nous avons un concert prévu. Enfin, nous avons une invitation pour le 23 mars, à Hyères-sur-Amby. Le 6 avril, à Monistrol-sur-Loire, pour un festival sur deux jours. Et le 26 avril, à Dolomieux, par le comité de jumelage.
Possible que vous en ayez un autre, une date quasi similaire. Alors, tout le monde s'arrache et filme.
Oui, on voit. C'est impressionnant.
Voilà.
Ils ont
commencé leur tournée Norisère, mais bien au-delà.
Oui.
Alors, vous nous proposez un deuxième titre.
Non, mais...
C'est vrai? Non, mais
c'est
vrai.
Nous sommes allés chanter à Grenoble. Non, mais
bien
c'est
sûr,
vrai,
non,
c'est
non,
vrai.
Mais bien sûr.
Nous avons déjà... Nous sommes allés dans la Loire déjà une fois.
Vous êtes même allés chanter dans le brouillard en juillet, je ne sais plus où.
Dans le Vercors.
Il faisait 30 la veille et nous avions 13 degrés.
Ouais.
Pour chanter en plein air, c'était un peu difficile.
Alors,
deuxième chanson, c'est la Povera Cecilia. Alors, c'est une chanson, en fait, il y a une vingtaine, si ce n'est plus, de versions dans l'Italie. Chaque région a sa Povera Cecilia. Parce qu'en fait, c'est l'image de l'héroïne romantique italienne. C'est peut-être plutôt italien, qui se sacrifie pour son grand amour. Et en fait, c'est le thème de la Tosca de Puccini. Voilà. Donc la version que vous allez écouter, c'est une version de l'Italie méridionale, centre méridional. Hein. Et c'est le Musicanti del Piccolo Borgo.
Musicanti del Piccolo Borgo, oui.
Voilà.
Tout à fait. Thank you. Voilà, mais merci Chantal et Daniel. Alors maintenant, Dominique, rubrique littéraire.
Alors, je voudrais parler aujourd'hui de L'Incontre, qui est paru en 2010 chez Einaudi et qui vient de paraître en France sous le titre La guerre des saints aux éditions du Seuil. C'est un roman de 115 pages de Michel Amourdia.
Comment tu écris les saints ?
La guerre des saints, S-A-I-N-T-S.
Merci.
Il y a une question de procession.
D'accord.
Donc, traduction de Nathalie Bauer, que nous connaissons bien, puisque nous avons recensé plusieurs livres traduits par elle, et qui est également, il faut le rappeler, une romancière de grand talent, auteur notamment de « Des garçons d'avenir » sur la guerre de 14. Donc, sur le site de Michel Amourdia, on trouve une brève notice biographique, rédigée par elle, où elle affirme ce qu'elle considère comme l'essentiel. « Je suis né en Sardaigne, et même si j'ai changé d'adresse, à l'intérieur, je n'ai jamais cessé d'y habiter. » En rêvant qu'elle serait indépendante dans toutes les acceptions du terme. J'ai obtenu un diplôme dans une école technique, et ensuite j'ai fait des études de théologie, ce qui ne fait pas de moi une théologienne, bien que l'on continue à l'écrire. Je n'aime pas que l'on me définisse comme jeune. Une fois passé les 25 ans, être appelé adulte devrait être un droit. Je ne fume pas, je ne porte pas des bijoux précieux. Je déteste les jolis cadavres de fleurs coupées. Je déteste les journalistes qui me demandent ce qu'il y a d'autobiographique. Et les éditeurs à compte d'auteur. Je suis végétarienne, mais je sais reconnaître les occasions où l'on peut faire une exception. Par éthique politique, je me définis de gauche. Et dans mon ordre intérieur, ce mot a encore un sens. Je suis mariée, ce qui m'a rendue plus affable. Mais même si je me rends compte qu'à lire cette biographie, on ne dirait pas. Elle est donc née le 3 juin 1972 à Cabras, en Sardaigne. Elle a, dans un premier roman, décrit le travail des opérateurs de télémarketing dans lequel elle dit l'exploitation économique et la manipulation psychologique qui est faite des salariés du secteur, la plupart du temps précaire. En 2009, elle publie « Acabador », un roman qui raconte une histoire d'euthanasie dans les années 50 et qui a connu le plus grand succès en France.
Tu parles d'adoption aussi.
Oui. Mmh. En 2011, elle publie un essai « Ave Marie et la Chiesa inventò la donna », une histoire de la femme dans l'Église catholique, livre qui n'a pas obtenu les faveurs de l'Osservatore Romano.
Je demande pourquoi.
Alors, l'histoire de ce petit roman. Maurizio, chaque année, vient en France chez ses grands-parents, il a 10 ans, dans une petite ville côtière de la Sardaigne. Cette année, ses parents choisissent de rejoindre le continent et d'aller travailler à Ferrara pour gagner un peu mieux leur vie. Le grand-père décide alors que Maurizio restera avec eux. C'est un petit livre magnifiquement bien traduit, avec des scènes superbes, où il est question des saints protecteurs des pêcheurs, des maçons, des agriculteurs. Un livre qui évoque de façon fort savoureuse, presque gourmande, ces vieux qui, le soir venu, sortent le chaise sur le pas de la porte et racontent aux enfants venus les écouter des histoires de fantômes ou bien des histoires d'âmes en peine qui n'ont pas, avant de mourir, eu l'occasion de payer leurs dettes et qui errent à la recherche d'un rachat, comme ce prêtre qui avait reçu de l'argent pour dire des messes qu'il n'avait jamais célébrées. Un livre qui célèbre les jeux d'enfants, jeux souvent très simples, et qui accorde plus d'importance à cette fratrie issue des jeux partagés qu'à celle du sang. Un livre qui exalte le « nous », comme s'il était primordial de ne jamais oublier que l'on fait partie d'un groupe, d'un quartier, d'une fratrie. Aucune famille ne l'emportera jamais sur les après-midi d'été ensoleillés au cours desquels on a réussi à marquer son premier but parmi les cris des copains ou libérer avec eux une libellule gigantesque entrée par mégarde dans un filet à papillons. Et la voix de son propre sang est vaine face à la certitude d'avoir fait saigner involontairement le genou d'un ami. Jamais un Noël parmi les siens ne rivalisera intimement avec le souffle du vent sur le visage lorsqu'on dévale une pente à vélo sans les mains avec le reflet d'une natte sombre se balançant dans le dos de la fillette la plus jolie, ou encore avec la honte cuisante d'un magazine pour adultes trouvé au milieu des broussailles et feuilleté en bande dans un silence hagard. C'est dans ces virginités perdues que réside le pacte secret des vrais complices, le pouvoir normatif des premières certitudes communes devant lequel il n'y a pas de famille qui puisse revendiquer de droits plus importants. La guerre des saints nous embarque dans l'exploration des égouts. Il nous fait sourire lorsqu'il décrit la fabrication par les enfants de radeaux de fortune destinés à explorer les marais. On craint le pire lorsque les garnements évoquent la chasse aux oiseaux. Que dire devant la cruauté qu'ils manifestent lorsqu'ils s'en prennent à des rats d'égout ? Un roman de l'enfance, de la vie à la campagne. La religion joue un grand rôle et peut représenter pour certains prélats des enjeux de pouvoir étonnants. Mais on est en Sardaigne, loin de toute agitation superficielle. Faisons confiance aux enfants. Pour le dire en quelques mots, La guerre des saints est le roman d'un autrefois intemporel où l'on prenait le temps de grandir.
Donc tu rappelles le titre?
Alors La guerre des saints aux éditions du Seuil.
Aux éditions du Seuil, donc dans sa traduction française, ouvrage de Michela Murgia. On va reparler de Michela Murgia.
Je
après,
pense, oui.
Et puis on va faire une petite pause sonore. Et on va rester en Sardaigne avec un chœur de femmes cette fois. Bon, c'est vrai qu'en Sardaigne, il y a des genres musicaux assez multiples. L'un des plus connus étant le canto a tenor, qui est masculin, chœur d'homme. Et là, on va écouter un chœur de femmes qui s'appelle Actores Salidos. Et on va écouter une chanson, un chant, qui s'appelle Homines Comente Tamburos, et qui commence ainsi, en sarde. Les hommes sont ainsi, ils promettent l'amour, et ils ne le donnent jamais. Les hommes sont ainsi. L'œillet de Boza, Boza, c'est une ville sarde, est rouge, et un très beau jeune homme est tombé amoureux de moi. Les hommes sont ainsi, ils promettent l'amour et ne le donnent jamais. Elles n'engendrent pas la mélancolie.
Et puis elles sont contentes d'elles.
Oui, elles ont raison d'ailleurs. Oui, Michela Murgia fait partie en Sardaigne, dans sa région, d'un mouvement, d'une association qui s'appelle Liberos, et qui est une association assez intéressante. On cherche des tas de choses en ce moment, on veut imaginer des tas de... cette association qui est dédiée au livre a créé une sorte de circuit à l'intérieur de l'île dont la devise est « Le livre est un jardin que tu peux garder dans la poche ». Et donc dans cette association, elle a été créée par des écrivains comme elle, enfin des auteurs, des libraires, et elle implique les libraires, les bibliothèques, les organisateurs de festivals du livre, il y a un circuit comme ça de distribution du livre qui est mis en avant, et c'est assez intéressant comme initiative. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose sur Michel Amour?
Rajouter simplement que c'est très intéressant d'aller visiter sa page Facebook, qui est une richesse assez exceptionnelle. On dit beaucoup de mal de Facebook, mais là, franchement, ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a des témoignages, il y a beaucoup de textes d'elle-même qui sont d'une profondeur étonnante. Il faut y aller.
Voilà, tu voulais nous parler malheureusement d'un auteur qui a disparu récemment.
Oui, c'est Rita Levi Montalcini qui vient de nous quitter, une grande figure du monde scientifique italien, de la vie politique aussi. Elle était née à Turin en 1909. C'est une neurologue qui a eu le prix Nobel en 1986. Elle s'intéressait particulièrement à la croissance de la fibre nerveuse. En 1999, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Et en 2001, elle est nommée sénatrice à vie par le président Carlo Azeglio Ciampi. Elle avait fait le choix de ne pas avoir de famille pour privilégier son travail. Voilà, ses recherches dans le domaine de la neurologie l'avaient conduite à s'intéresser de près au fonctionnement du cerveau. C'est une grande figure qui vient de disparaître.
Voilà, mais cette émission va bientôt toucher à sa fin. Comme d'habitude, on va vous donner la recette, enfin cette fois on va pouvoir la donner, la dernière fois on n'avait pas pu. Alors dans cette période de bûne ici, bientôt de carnaval en Italie, vous avez par région une appellation qui est souvent très différente, mais des choses qui ressemblent assez aux bûnes, les chiacchiere dans certaines régions, les frappes, les crostoli, etc. Et en Vénétie, ce sont i galani. Alors, je vais vous donner la recette. On va peut-être mettre un fond musical avec un chœur d'hommes, cette fois, une chorale d'hommes des Dolomites, de la région de Belluno, qui s'appelle le chœur d'hommes Monte Dolada. Et c'est une chanson qui s'appelle Una volta guerra, en dialecte. Il était une fois une vilaine vieille qui avait seulement deux dents. Lorsqu'elle en touchait une, elle bougeait. Lorsqu'elle en touchait l'autre, elle lui restait dans la main. Et tralali, lalalala, vous entendez un peu de chant tyrolien. Et enlève-toi là cette dent que je ne la veux pas. Et puis après, il rajoute l'auteur de la chanson, qui est supposé être celui que désire la mémé en question. Non, je ne la veux pas, elle a une bosse. C'est toujours souvent, il y a souvent des bosses dans les chansons. Je ne la veux pas, je ne le vale pas, parce que sa bosse abîmerait nos draps. Voilà, alors on va mettre en fond sonore ce cœur de Monte Dolada. Alors la recette dit galami. Donc ce sont des gâteaux, on peut dire, typiques qui se font pendant le carnaval à Venise et dans la région de Venise. Alors pour un plat du genre assez important, vous prenez 500 g de farine, 3 œufs, 60 g de beurre, une cuillère de sucre. Si vous voulez mettre de l'alcool, mettez une cuillère de grappa, un petit peu de sel, de l'huile pour à frire et du sucre en poudre. Alors, pour préparer ce mets, vous faites comme ceci. Vous disposez la farine en fontaine. Au milieu, lorsque vous avez fait cette fontaine, vous mettez les œufs, le sucre, le sel. Si vous avez préparé la grappa, vous en mettez. Et vous commencez à pétrir avec une fourchette. Et quand le tout a pris une consistance, lorsque cette pâte est homogène, vous l'étendez sur une planche à pâtisserie et vous y mettez le beurre en petits morceaux. Ensuite, vous recommencez à pétrir de façon rapide, en évitant toutefois de trop réchauffer la pâte si vous êtes un grand pétrisseur, une grande pétrisseuse, je ne sais pas si on dit ça. Oui, peut-être. Vous faites une boule, vous les mettez dans un récipient qui est déjà fariné et vous couvrez avec un torchon plié en quatre pour faire reposer le tout pendant une heure dans un endroit frais. Ensuite, vous coupez cette pâte en deux, vous la coupez ensuite d'abord en deux et après en petites parties égales. Vous tirez la pâte de façon à ce qu'elle soit assez fine, à peu près 2 mm d'épaisseur. Et si vous voulez, vous pouvez faire l'étendre avec le rouleau à pâtisserie. Puis si vous aimez pas ça, il existe des machines. Mais non, mais le rouleau à pâtisserie, c'est tellement plus sympa. Ensuite, vous utilisez une petite roue dentelée, là. Et pour faire, vous amusez, en fait. Hein, vous faites des petits rectangles et avec des bords ciselés. Et puis, après, vous mettez dans l'huile chaude, environ 160 degrés, pendant 2 minutes de chaque côté. Et vous n'en mettez pas plus de deux ou trois à la fois de ces petits galagnes. Et quand vous voyez qu'ils ont une couleur dorée, vous les égouttez. Et après, vous les séchez avec du papier absorbant et vous pulvérisez de sucre.
Et Alain va nous faire une démonstration très bientôt.
Voilà,
vous l'a promis.
Et sur ce, bonne soirée à tous.
Merci pour l'invitation.
À une prochaine émission. Et quand vous voulez, Chantal et Daniel.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bonsoir Dominique, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Piacere.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le 4e jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.